Bonjour.
C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est vrai que j'ai recommencé déjà le 1er septembre, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être là pour vous apporter aussi ce message. Alors c'est vrai, on continue dans la croissance de l'Église. Il y a 2 semaines, David nous a parlé, non, Nathalie, de la croissance au niveau de la création. Multipliez-vous et dominez sur la terre. Et puis la semaine passée, David nous a parlé aussi qu'il faut que je diminue et qu'il croisse. Et puis aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler, de prendre ce texte d'Éphésiens qui nous parle de la croissance dans l'Église. Alors, on va s'arrêter un moment dans Éphésiens. On va faire un petit tour avant d'aller un peu plus loin dans ce texte. Au début de cette lettre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu est le Père. Que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et qu'en Christ, Dieu nous a choisis, avant la création du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Cela nous rappelle que les plans de Dieu sont beaucoup plus vastes que notre vie, qui dépassent en fait la vie de notre Église, et surtout qui ne datent pas d'hier, qui ne sont pas liés en fait à la politique suisse, ni à l'économie, ni au réchauffement climatique, mais Dieu a des plans depuis bien longtemps aussi pour nous. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis. C'est quand même assez extraordinaire. Et en plus, pour qu'on puisse être ses enfants adoptifs. Dieu, il nous précède, il nous aime, il est là avec nous, et il a des projets très grands pour notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus, il a le désir qu'on puisse être dans sa présence. Il a la joie, et nous, nous avons la joie et le bonheur et la grâce de ce matin de pouvoir aussi nous tenir avec lui dans sa présence. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul aborde des thèmes qui vont bien au-delà, finalement, de la situation de l'église d'Éphèse et puis des diverses églises d'Asie mineure auxquelles aussi cette lettre était adressée. Dans cette lettre, Paul parle en fait de réalité spirituelle qui concerne tous les chrétiens, comme justement les bénédictions que les croyants reçoivent en Christ et la croissance spirituelle de l'Église. L'Église d'Éphèse ne semblait pas vraiment confrontée à des fausses doctrines. Par contre, elle était composée de juifs devenus chrétiens et de non-juifs qui s'étaient convertis. Et c'est sûr que la cohésion et l'unité entre ces deux groupes de personnes, ça c'était un des défis importants. Mais quand est-ce que l'apôtre Paul est passé à Éphèse ? Alors, si je l'allume, c'est mieux. Alors, en Actes 18, on voit que c'est lors du deuxième voyage. Alors, le deuxième voyage, c'est en bleu. Je sais pas, je pense que vous voyez peut-être pas trop les couleurs, un petit peu comme ça. On voit quand même. Et puis, alors là, il était avec Priscille et Aquila, un couple. Ils étaient à Corinthe avant. Ils sont passés à Éphèse, mais vraiment très courtement. Et Paul, lui, il a continué seul son voyage. Il a été jusqu'à Jérusalem. On est à peu près en l'an 50 après Jésus-Christ, donc dans l'Empire romain. Puis, après cette arrivée à Jérusalem, il repart cette fois pour son troisième voyage missionnaire. Puis c'est là qu'il va s'arrêter, mais beaucoup plus longtemps à Éphèse. Il va rester 2 ans. Il va rester quelques mois à la synagogue pour enseigner. Il va parler du Saint-Esprit. Et puis après, il va continuer d'enseigner dans une école, l'école de Tyrannus, pendant 2 ans. Et il va parler du royaume de Dieu. Il va accomplir beaucoup de miracles. Il va connaître cette communauté à ce moment-là. À la fin de son troisième voyage, quand il retourne à Jérusalem, c'est là qu'il va être arrêté, qu'il va être ensuite envoyé à Césarée, où il sera en prison. Et puis, finalement, il va en appeler à l'empereur, donc il sera envoyé en prison à Rome. Et on pense que c'est là qu'il aurait écrit cette lettre. Alors, dans cette situation en prison, malgré tout, il continue de prier pour les églises et celles d'Éphèse, à les exhorter et à leur parler de la croissance de l'Église. Dans le deuxième chapitre de cette lettre, au verset 12, Paul leur demande de se souvenir que les non-juifs étaient sans Messie. Qu'ils étaient sans Messie, exclus du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, ils sont devenus proches par le sang de Christ. Jésus a réconcilié les juifs et les non-juifs avec Dieu en les réunissant en un seul corps au moyen de la croix. Et c'était tellement important à l'époque de réaliser ça parce que c'était justement l'Église naissante, il y avait ces deux communautés et c'était une réalité tout d'un coup qu'il découvrait. Et il continue justement, juste au chapitre 3, il dit encore qu'il a reçu cette révélation du mystère en Christ, c'est-à-dire que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ. C'était une nouvelle compréhension. Jusqu'à maintenant, il y avait eu toutes les synagogues, toute la communauté juive, et tout d'un coup, il y a toutes ces églises qui naissent, et c'était tellement vital et important qu'il y ait cette unité, qui est ce corps. Et Paul, il prie justement pour eux. Il prie pour que Dieu donne aux chrétiens d'Éphèse, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans leur être intérieur, de sorte que le Christ habite dans leur cœur par la foi. Il prie aussi pour qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour. Et tout au long de cette lettre, on voit que ces thématiques en fait, de l'unité et de l'amour au sein du corps du Christ qui sont présents. Donc c'était un peu poser un peu les éléments pour aller un peu plus loin, pour découvrir ce texte d'Éphésiens 4. Alors finalement, au début, j'avais plutôt 11-16, mais je me suis dit, mais c'est tellement cohérent, finalement, le début aussi avec l'unité, donc j'ai pris aussi le début. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, qu'il tire sa croissance, dans la mesure qui convient à chaque partie pour s'édifier lui-même dans l'amour. Alors c'est un long passage, c'est riche, mais je crois que c'était important de pouvoir aussi le lire aussi ce début d'Éphésiens. Alors c'est vrai que dans ce passage, il y a la vie des relations, de la communauté, il y a la vie de l'Église, il y a différents éléments. Et puis il utilise cette image justement du corps humain, oui, lui, dont le Christ est la tête. En résumé, dans ce passage, on pourrait dire que Paul parle en fait des relations dans l'Église, de la croissance spirituelle et des chrétiens qui sont justement les uns en lien avec les autres. Et puis tout au début, il exhorte les membres de l'église d'Éphèse à supporter les uns les autres dans l'amour. Parce que des fois, c'est pas toujours évident de s'aimer, tout simplement. Des fois, il faut peut-être déjà passer par l'étape de se supporter et de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors on peut bien imaginer qu'avec ces deux groupes, juifs et non-juifs, c'était pas toujours évident, que peut-être ils avaient aussi une manière de vivre leur foi, de vivre un culte, de louer Dieu, de lire les Écritures qui étaient différentes, et puis qu'ils ont dû justement apprendre à vivre ensemble, à être un corps. Alors se supporter dans l'amour et rester unis, c'était leur défi. Dans ce passage, Paul rappelle aux Éphésiens ce qui les unit finalement et qui constitue l'Église. On pourrait dire un petit peu les fondements de l'Église. Alors je vais les reprendre par points, mais c'est pas forcément les points d'importance, c'est plus les points en lien avec le texte, comme ils ressortent. Donc l'unité, on a vu qu'il y a un corps, un esprit, une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême et un Père, un Dieu et Père. Il y a la grâce qui est donnée, Jésus s'est donné entièrement, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. J'ai mis avec les dons, parce que les dons, c'est aussi une grâce. Puis il y a le Christ, qui est bien sûr la tête, qui est au centre, et l'amour, Le corps ne peut s'édifier aussi que dans l'amour. Alors c'est vrai que ça ne me plaisait pas trop de les mettre comme ça en point à la suite, mais je me suis dit peut-être que finalement c'est plus quelque chose de dynamique où Jésus il est au centre et il y a aussi tous ces aspects. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments encore qui fondent aussi l'Église, mais j'ai pris ceux qui étaient dans le texte. Et chacun, ils sont importants. Et j'avais envie de m'arrêter plus particulièrement aussi sur l'unité. Dieu est un. Il y a la personne du Fils, il y a la personne du Père, il y a la personne du Saint-Esprit, et pourtant, ben, Dieu, il est un. Et puis d'ailleurs, dans la confession de foi aussi d'Israël, du peuple juif, qui est Deutéronome 6,4, il dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Et c'est tellement important de réaliser que finalement, ben, le Père, il aime son Fils, le Fils, ben, il aime son Père, les deux, ils s'aiment, ils aiment le Saint-Esprit aime le Fils, aime le Père, puis finalement, il y a cette relation d'amour en continu dans la Trinité entre eux. Un amour, j'imagine, plein de tendresse, généreux, libre, plein de douceur, de bonté. Puis finalement, c'est ce qui devrait aussi nous inspirer pour vivre aussi nos relations au sein de l'Église, que c'est quelque part, ça puisse aussi être quelque chose de ça, de cet amour, de cette présence, de cette relation qu'ils ont entre eux, qu'on aimerait pouvoir aussi vivre, que Dieu aimerait qu'on puisse vivre aussi les uns avec les autres. Et puis l'Église aussi est une, il y a un seul corps. Bien que les hommes, malheureusement, au travers de l'histoire, ben, il y a eu les catholiques, les orthodoxes, les protestants, on a fait plein de noms différents, mais finalement, il n'y a qu'un corps spirituel, on est une seule Église au travers de l'histoire. Et on peut tous se rattacher à Christ, on peut tous justement regarder vers lui et s'attendre à lui. Paul, justement, il appelle les chrétiens d'Éphèse à s'efforcer de maintenir ce lien de l'unité, de l'esprit par le lien de la paix, parce que justement c'est quand même un défi, c'est pas si évident que ça, de rester unis. Et puis c'est ben, aussi valable pour nous encore aujourd'hui. Nous sommes une église en pleine croissance, on est heureux d'accueillir des nouvelles personnes, et puis en même temps ben, c'est vrai qu'on est aussi appelé à rester dans cette unité, dans l'amour. Il y a des personnes qui font partie de l'église depuis peut-être 20 ans, peut-être même 40 ans, et puis il y a des personnes, ben, ça fait peut-être juste quelques semaines qui sont là, et on est aussi d'origine, de cultures différentes. Et puis en même temps, ben c'est vrai, on fait partie de ce corps. Et c'est aussi important justement de pouvoir se rappeler qu'on a le même Sauveur, la même foi, qu'on a le même baptême. Alors mon désir, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse justement demander à Dieu de pouvoir rester unis. Qu'en vivant toutes ces transformations, en vivant cette croissance, on puisse continuer de vivre cette unité et dans la paix. Ces fondements de l'Église, finalement aussi, qui est le Christ, l'unité, la grâce, les dons, l'amour, ben, en même temps, ben, c'est aussi les éléments de la croissance. C'est quand on peut les vivre, quand on peut les manifester entre nous, c'est ce qui permet aussi de voir que l'Église, elle peut grandir, que chacun, on peut grandir ensemble. La croissance spirituelle dont parle justement Paul, elle vient du Christ, ça c'est sûr, c'est pas de nous. Et c'est vraiment lui qui nous permet de croître. Et puis c'est aussi lui qui nous donne les dons qu'on a chacun. Et en grandissant chacun dans notre vie spirituelle, ben finalement ça fait aussi grandir l'Église. Puis l'Église en grandissant dans la maturité, ben ça fait, nous permet aussi chacun ben, de grandir, d'aller plus loin. Chacun peut mettre ses dons au service de l'Église et ensemble on grandit. Par exemple, ben, on peut être béni par la prière d'un frère ou alors par des paroles de sagesse et d'encouragement d'une sœur ou vice-versa. Ou encore être édifié par une prédication ou par une parole apportée par les moniteurs de l'école du dimanche, être visité par l'Esprit pendant un temps de louange. Chacun aussi apporte sa part. Chacun a sa place dans l'Église. Et puis, c'est en laissant une place à chacun qu'on pourra continuer à grandir. Dieu nous donne des dons. Et comme on l'a vu dans le texte, il dit que c'est pour que nous soyons formés pour le service, que nous soyons enseignés, qu'on puisse parvenir à l'unité de la foi, qu'on puisse encore plus connaître Christ et arriver à sa maturité. Ce qui permet aussi, en fait, en étant ainsi formé, ben, d'éviter d'être influencé par des fausses doctrines, par la ruse des hommes, comme il dit dans le texte, et puis nous permettre de rester unis ensemble. À l'inverse, c'est aussi en disant la vérité dans l'amour que nous grandirons, à tout point de vue, vers celui qui est le Christ, la tête. Alors l'amour, dire la vérité, il semble qu'on peut aussi dire autrement, on pourrait dire aussi, c'est finalement, c'est aussi être vrai entre nous, être vrai, être authentique dans nos relations, pas juste parler et présenter le Christ, c'est déjà tellement important, mais aussi être vrai dans qui nous sommes et de pouvoir nous aimer les uns les autres. Alors c'est vrai que quelque part, Paul, il nous défie dans nos relations, de pouvoir développer des relations de qualité, profondes, vraies, où on peut justement aller plus loin, où on peut s'encourager, où on peut se permettre les uns les autres de développer aussi les dons que Dieu nous a donnés. Voilà, les buts des dons, j'avais déjà dit. Mais c'est vrai qu'il y avait une question que je me posais un peu, c'était un mot un peu particulier, ce verset 16. Parce que dans l'original, il parle d'articulation. Puis je me suis dit, mais finalement, c'est quoi ce corps qui est bien coordonné, qui est uni grâce aux articulations, aux jointures? Et puis j'ai trouvé dans un commentaire qui disait, mais finalement, ce mot, disons que le sens qu'on pourrait le donner, on pourrait dire que finalement ce passage, il peut exprimer l'importance des liens entre les différentes églises locales et puis l'église globale universelle. Ou ces articulations, certains dans les commentaires, ils disaient, mais ça pourrait être aussi peut-être les différents ministères qui sont là au service de l'église, qui font le lien et qui permettent à cette église de grandir, de se développer. Mais en même temps, on est tous appelés justement à être serviteurs, c'est pas juste une partie. Et il y a d'autres qui disaient, mais finalement, ce lien, ce mot articulation en grec, on peut aussi le traduire comme le toucher, le contact, finalement les échanges. Donc ça pourrait être traduit un peu différemment, ce texte, après, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux contacts, aux connexions, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Puis là, ça met l'accent tout d'un coup encore beaucoup plus. Ça donne du sens dans ce lien d'amour, ce lien d'unité, de développer justement ces relations les uns avec les autres. C'est vrai que ben, finalement, c'est vrai que cette unité, cette croissance, elle peut être que possible si on est en lien avec les uns avec les autres, s'il y a des contacts, des échanges. Et ça, c'est encore aussi un défi, quelque chose qu'on peut développer. Et la dernière partie de ce verset, c'est « Le corps s'édifie lui-même dans l'amour ». Pour grandir, pour s'édifier, ben c'est vrai que c'est important de pouvoir développer ces relations où on se sent en confiance. D'ailleurs, dans une famille, quand un enfant il est aimé, quand un enfant il sent que quelqu'un s'occupe de lui, joue avec lui, le regarde, et ben c'est là qu'il va se développer. Puis ben finalement, nous aussi, quand on se sent en confiance entre nous, quand on sent qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut partager, qu'on peut dire aussi qui on est, nos défis, nos moments de fragilité, c'est là aussi qu'on peut grandir et puis se sentir aimé pour aussi continuer d'aller de l'avant. Et l'amour, c'est vrai, ben, il vient de Dieu. Il est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors n'hésitons pas, parfois, si on sent qu'on a un peu plus de peine avec une personne, bah, demandons à Dieu, Seigneur, remplis-moi tout à nouveau de ton amour. L'amour, finalement, c'est indispensable pour la croissance de l'Église, mais comme l'unité. Une Église, elle ne peut pas croître s'il n'y a pas l'unité et l'amour. Parce que si on pense à l'inverse, s'il y a des divisions, s'il y a des partis pris, s'il y a des paroles blessantes, ce n'est pas des choses qui vont aider à la croissance, qui vont permettre justement que Dieu soit glorifié. Alors, une église qui grandit, ben, ça implique aussi ben, des changements. Puis, quels sont les changements, on pourrait se poser, engendrés par la croissance? Alors, dernièrement, en écoutant un peu parfois les uns et les autres, ou même mes réflexions, je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, on passe un peu d'une église familiale à une église plus large. Puis, une des conséquences, ben, c'est que, par exemple, je ne connais plus tout le monde. Ce n'est pas évident, finalement, de connaître tout le monde, puisqu'il y a régulièrement des nouvelles personnes. Ou je me sens un peu peut-être dépassée par toutes les personnes qui arrivent régulièrement, parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre à les connaître, qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Mais c'est aussi réjouissant. Et puis, c'est vrai, on peut se poser la question, mais comment on va faire? Comment on va aller de l'avant? Comment on va justement créer ces liens, ces contacts? Alors moi, j'avais envie de vous laisser quelques questions, c'est vrai, au niveau personnel, mais qu'est-ce que ça change pour soi d'être dans une église qui grandit? Et puis, au niveau de la communauté, comment vivre et servir ensemble dans l'unité et dans l'amour? Alors, j'ai un peu essayé de mettre 2-3 défis comme ça que finalement on a, c'est ben, de continuer à être prêt à se supporter les uns les autres, à s'aimer, chercher à rester unis malgré les différences, permettre à chacun d'exercer ses dons et puis de continuer aussi à développer nos relations, nos articulations. Ça peut être lors d'échanges informels autour d'un apéro, ça peut être en participant à un Connect Group, ça peut être en participant cet après-midi aussi à la rencontre avec Why Not, ou faire partie d'une équipe de projet pour aussi pouvoir servir ensemble. Et finalement, j'ai envie de dire quelque part, le défi ultime, c'est de rester unis et de s'aimer, d'être dans une église qui grandit et de continuer à pouvoir rester unis, à s'aimer, à avancer ensemble. Alors, c'est vrai, on peut compter sur la grâce de Dieu, je crois que c'est le plus important. Et puis en même temps, peut-être parfois, ça va nous demander aussi des efforts d'aller vers l'autre, de faire connaissance, d'inviter, de partager, de prier, de bénir pour l'autre. Parce que finalement, notre vision de l'Église, ici à la Frate, c'est aussi la vision de la Fraie, c'est d'être ensemble pour partager l'amour de Christ avec chacun. Donc, moi, c'est ma prière aussi pour qu'on puisse continuer justement à vivre et à grandir dans cette unité et puis à pouvoir le faire en Christ. J'aimerais juste prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai, c'est une grâce d'être ton enfant, c'est une grâce d'être aimé de toi et de pouvoir faire partie de ton corps, de ton Église. Merci pour toutes les personnes qui sont ici à la Frate, pour toutes les personnes que toi, tu attires et que tu conduis. Et Seigneur, je veux te prier pour que tu nous gardes, toute cette Église, toute cette communauté, toute ton Église, Seigneur, dans l'unité et dans l'amour. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir approfondir nos relations, de pouvoir marcher à ta suite et de regarder à toi, Seigneur. Amen.